France Inter.
France Inter, il est 19h22.
France Inter, le 18-20. Amélie Perrier.
Quelle est longue cette semaine politique en France. Toujours pas terminée, on ne sait pas encore comment Emmanuel Macron compte sortir de la crise politique. On ne connaît toujours pas le nom du futur locataire de Matignon. En tout cas, l'un des points de blocage, ça on en est sûr, le point de blocage, c'est la suspension de la réforme des retraites réclamée par la gauche, par les syndicats et par la rue lors des dernières journées de mobilisation. Cette réforme lâchée même par celle qui l'a portée devant le Parlement en 2023, Elisabeth Borne. Pourquoi la situation semble à ce point dans l'impasse? Que peut lâcher Emmanuel Macron? On attend vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et j'accueille tout de suite nos invités. Bonjour, Jeannine Mossu-Lavaux.
Bonjour.
Politologue, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et au CEVIPOF. Céline Braque est avec nous également en studio. Bonjour.
Bonjour.
Co-fondatrice et directrice générale de l'Institut d'études Doxa. Et Baptiste Talbot, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous?
Oui.
Vous êtes secrétaire confédéral de la CGT en charge de la coordination des luttes. Merci à vous trois d'être là pour répondre à nos auditeurs. On va commencer par l'un d'entre eux qui est au standard. Bonjour Ghislain.
Oui, bonjour.
Allez-y, on vous écoute.
Mais bonjour, je trouve qu'on parle beaucoup de retraités aujourd'hui, mais assez peu de ceux de demain. Et si le Parti Socialiste revient sur la réforme, comment compte-t-il assurer la pérennité du système pour nos enfants? Alors ma question c'est, est-ce que c'est vraiment une politique de progrès ou est-ce que c'est une forme d'irresponsabilité?
Eh bien on va donner tout de suite la parole à Baptiste Talbot de la CGT.
Et non pas du Parti Socialiste, je précise bien évidemment, parce que la question s'adressait au Parti Socialiste.
Oui.
Écoutez, nous ce que nous disons c'est que nous avons largement de quoi financer notre système de retraite par répartition, hein, donc dans lequel ce sont... les actifs qui financent les pensions des retraités. Il y a de nombreux moyens de financer les retraites aujourd'hui dans ce pays. La question, c'est qu'il faut faire des choix tout à fait différents de ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a pratiqué toute une politique d'exonération de cotisations sociales, on a compressé les salaires, on a baissé les impôts des plus riches. Voilà, on a procédé à tout un tas de redistributions de la richesse produite dans ce pays au bénéfice d'une majorité et au détriment d'une minorité. Et donc, d'ailleurs, on voit que c'est aujourd'hui ce qui conduit le pays dans l'impasse politique dans laquelle nous nous trouvons. Donc nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut faire des choix tout à fait inverses à ceux qui ont été pratiqués récemment. Il faut réhabiliter l'impôt. Nous, nous sommes pour l'impôt progressif. Nous pensons que c'est un instrument de justice sociale et de démocratie. Il faut faire le choix des salaires. Il faut faire le choix de l'emploi. Et ça veut dire qu'il faut mettre bien plus à contribution qu'ils ne le sont aujourd'hui toutes celles et ceux qui sont peu nombreux mais qui sont très riches, qui ont largement bénéficié de la politique menée par Emmanuel Macron depuis son accession au pouvoir.
Céline Braque de Doxa, on voit que c'est le nœud du problème, hein, cette suspension de la réforme des retraites, mais est-ce que c'est le problème le plus clivant pour les Français aujourd'hui?
Alors ça reste un problème très clivant pour les Français. Alors je ne sais pas si c'est encore le nœud du problème, parce que je ne suis même pas sûre que si une solution était trouvée, un accord sur une suspension par exemple, ça permettrait de résoudre la crise dans laquelle on est actuellement. Je pense qu'il est trop tard.
Mais vous pensez que si Emmanuel Macron dit on arrête, on suspend?
On suspend, bah, je ne suis pas sûre
ça ne règle
que
pas
pour
le souci.
Autant un nouveau Premier ministre ou peut-être un Premier ministre qu'on vient d'avoir qui reviendrait,
Sébastien Lecornu, pour ne pas le citer,
réussirait pour autant à ne pas être censuré au Parlement. Franchement, j'en suis pas sûre. Maintenant, pour répondre à votre question, clairement, cette réforme des retraites, c'est elle qui a causé en bonne partie de très mauvais, un très, très mauvais score pour les partis du gouvernement lors des européennes. C'est cette réforme et son opposition, etc., qui a fait qu'à un moment, Emmanuel Macron a décidé cette dissolution et qui fait qu'on est aujourd'hui dans cette situation qui nous paraît inextricable. Et aujourd'hui, lorsqu'on pose la question aux Français, on en a encore 6 sur 10, alors même que la réforme a déjà commencé à être appliquée, sont opposés. Et ça crée un vrai clivage, et votre auditeur révèle un de ces clivages, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté des sympathisants de droite et des sympathisants partisans Renaissance qui disent il n'y a pas d'autre choix que de reporter, de rallonger l'âge légal de départ à la retraite. Et de l'autre côté, des sympathisants de gauche, des sympathisants du Rassemblement National, qui eux considèrent qu'il y a d'autres choix possibles et qu'il n'y a pas de raison pour eux que ce soit cette réforme des retraites qui permette de résoudre nos problèmes de dépenses publiques, de déficit plutôt, et considèrent qu'il faut aller chercher l'argent ailleurs.
Jeannine Mossulavo, comment vous expliquez que cette question, cette réforme des retraites, elle est à ce point mis notre pays dans une impasse politique aujourd'hui ?
Parce que il y a eu, je dirais, obstination, et notamment au plus haut niveau, contre la volonté ou le souhait ou l'envie, disons, de la population à travers ses représentants. Hein. Mais je pense que c'est pas, effectivement, et vous avez raison de le souligner, c'est pas en ce moment le problème central des difficultés des gens. En ce moment, quand, on le voit
c'est le pouvoir d'achat
qui, effectivement, arrive toujours en premier, ouais. Parce que dans la vie quotidienne, les gens, ils peuvent s'interroger sur les retraites, etc. Bon, il fut un temps, il y a très très longtemps, où il y avait des gens qui choisissaient un métier à cause de la retraite, notamment. C'est ce qu'on reprochait à certains enseignants. Bon, ça, évidemment que ça n'a plus rien. Mais moi, je pense que les gens aujourd'hui, il y en a quand même de plus en plus qui ne savent pas, je dirais même pas comment finir le mois, mais comment le commencer. Et donc ça, c'est primordial. Et les retraites, bon, ça a causé...
Est-ce que c'est Emmanuel Macron qui en a fait lui-même totem de sa présidence ?
De ça quelque chose. Et ce qui est le plus... je dirais presque amusant dans ça, c'est quand même que Elisabeth Borne s'est battue comme une malade pour faire advenir, ce changement concernant les retraites et faire imposer sa loi. Et puis maintenant,
elle est
la première qui dit « Ah oui, mais peut-être qu'il faudrait... » Voilà. Alors, je comprends que les gens se disent « Bon, il faudrait savoir ce qu'ils veulent quand même, parce que c'est pas cohérent tout ça. » Et la cohérence, ça joue, notamment pour ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est-à-dire la confiance. Et la confiance, elle ne s'instaure pas face à des choses qui partent dans tous les sens.
Donc, on retourne au standard. On retourne au standard. Bernard nous appelle de Chambéry. Bonsoir Bernard.
Oui, bonsoir France Inter, bonsoir vos invités. Voilà, écoutez, ce qui vient d'être dit, ça rejoint un petit peu mon propos. Mon propos, il est de dire par rapport à la réforme des retraites, tout dépend du terme qu'on emploie. Si c'est abroger ou si c'est suspendre. À mon sens, c'est tout à fait différent. Abroger, ça veut dire revenir quasiment à la case départ, ce qui était... énoncé comme étant pratiquement impossible, c'est-à-dire revenir à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Suspendre, c'est beaucoup plus acceptable, il semblerait, par le gouvernement et notamment Elisabeth Borne qui parlerait d'une retraite, d'un départ à la retraite à 63 ans, à partir du, qui serait installé donc à partir du 1er janvier. Voilà ma question, c'est une remarque, simplement.
Oui, mais Baptiste Talbot de la CGT, à la sortie de la réunion des chefs de parti à l'Élysée, certaines forces de gauche ont dit que Emmanuel Macron aurait proposé de décaler dans le temps la mesure de l'âge. Est-ce que ça peut calmer la colère ou c'est clairement pas suffisant ?
Alors, j'entends ce qui est dit sur le fait que les préoccupations immédiates peuvent se porter davantage sur les questions de vie quotidienne, de salaire, de capacité à vivre, sans doute. Après, la question des retraites, ça reste une question extrêmement sensible et importante parce que derrière, c'est quand même la question d'un modèle de société solidaire et juste qui est posé. Je pense que c'est ça qui fait qu'une grande sensibilité à la question des retraites. C'est sur les retraites que sont faits les plus grands mouvements sociaux des dernières années. Ça a encore été le cas dans la période récente et ça a été un des moteurs de la rentrée sociale importante que nous venons de vivre. Ce qu'on dit, c'est que non seulement il faut abroger la réforme des retraites, mais il faut même revenir à la retraite à 60 ans, parce que nous continuons de penser que le pays est suffisamment riche pour pouvoir financer cela. Et donc, bien évidemment, on ne se contentera pas en ce qui nous concerne d'une suspension, mais dans un contexte, vous l'avez dit, où ce soir, on n'a pas l'ensemble des détails, il n'est même pas certain qu'on soit sur une suspension, c'est-à-dire un arrêt de l'application de la réforme qui précéderait éventuellement un nouveau texte qui, à nouveau, modifierait les règles. Parce que ce que Emmanuel Macron, semble-t-il, a dans le paysage, c'est une forme de gel de l'application. Donc, on n'appliquerait pas la réforme, grosso modo, jusqu'à l'horizon de la présidentielle, dans ce qu'on en comprend. Et à partir de la présidentielle, la réforme s'appliquera à nouveau. Il semblerait même que, dans les hypothèses qu'a évoquées Emmanuel Macron, il y ait eu l'idée que le financement de cette période de gel pourrait trouver son financement dans une baisse des pensions. Donc, voilà, une des intervenantes a évoqué le terme d'obstination. Moi, je pense qu'on a même ce soir quelqu'un de l'Élysée qui est dans une forme de fanatisme ultralibéral. Et voilà, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que, un, il faut répondre d'urgence aux questions sociales, parce que c'est ça qui va permettre de dénouer la crise démocratique. Mais donc derrière la crise sociale que nous vivons, il y a bien une crise démocratique, une crise politique profonde qui doit alerter tout le monde. Et la CGT, elle compte bien apporter sa contribution pour qu'on sorte par le haut de cette crise, c'est-à-dire en résolvant la question sociale.
Céline Braque, vous êtes d'accord, crise politique
Oui, oui, parce que là, c'est vrai que c'est difficile d'ailleurs de s'en sortir, parce que on disait abrogation ou finalement ou suspension, et là on est sur autre chose encore, qui est un décalage.
Un décalage, oui.
L'idée, c'est que les 63 ans qui devaient être appliqués en 2026 seraient appliqués potentiellement à partir de 2027. Après la présidentielle. En réalité, c'est l'histoire de quelques mois, en fait, si j'ai bien compris. Je ne suis pas économiste et ça peut paraître, on peut avoir le sentiment que du coup Emmanuel Macron est en train de pinailler sur des détails, alors que ça aurait peut-être quand même détendu l'atmosphère s'il avait annoncé la suspension. Alors, je pense que c'est vraiment une question de choix politique et d'enjeux par rapport au budget. C'est-à-dire que lui, il considère Emmanuel Macron, qu'il va y avoir une trop grosse différence avec l'Allemagne si on commence à laisser tomber cette réforme des retraites ou la suspendre. Et puis de l'autre côté, ses opposants disent « c'est pas le sujet, aujourd'hui on peut trouver l'argent différemment ». Donc d'où cette espèce c'est assez compliqué honnêtement à décrypter en fait ces enjeux autour des retraites. Mais ce que l'on voit, c'est que en fait, ce sujet des retraites, c'est pas seulement une obstination d'Emmanuel Macron, c'est que à chaque fois qu'on parle de ce sujet, on réactive finalement un peu un traumatisme pour les syndicalistes qui s'expriment, mais aussi pour les Français, parce que il y a eu des immenses mouvements sociaux autour des retraites en 1995, en 2010. En 2023.
Quel est le problème au fond ? C'est la manière dont la réforme a été adoptée par le 49-3 ou c'est le fond de la réforme ?
Alors,
certainement.
Il y a l'histoire du 49-3 parce que le 49-3, c'est vraiment le symbole de l'usure du régime. Et le fait que ça ait été appliqué par 49-3 alors même que cette réforme était taboue pour en tout cas une grande partie des Français, ça n'a vraiment pas amélioré les choses. Mais c'est aussi parce que derrière la réforme des retraites, il y a une question économique pour beaucoup de Français, une question de justice sociale, parce que les Français considèrent que ceux qui vont le plus souffrir de cette réforme, ce sont ceux qui, en dehors de ceux qui ont des régimes spéciaux, sont partis, ont travaillé assez tôt. Et donc c'est une réforme qui est injuste. Et puis, derrière, il y a même quelque chose qui se profile sur une espèce de perte de sens du travail où on se dit aujourd'hui, en fait, quand on a cet objectif de retraite, il n'y a aucune raison qu'on nous dise aujourd'hui qu'il faut décaler cet âge dans le temps parce que c'est à partir de cet âge-là, on ne veut plus travailler. On considère qu'on a fait notre œuvre, on a travaillé comme il le fallait, et il faut s'arrêter là. Donc vous voyez, en fait, ça cristallise un tas de choses. Injustice sociale, économie, pouvoir d'achat, et donc la réforme des retraites, c'est tout ça à la fois.
Céline Braque, si la réforme est suspendue en 2026, ça concerne quand même assez peu de générations. Ça concerne les générations nées entre 1965 et 1968. Bon, c'est presque 5 millions de personnes, mais c'est quand même pas la majorité des Français. Pourquoi cette question qui concerne 5 millions de Français, elle braque tout le monde ?
Mais parce que, en fait, il y a les personnes qui vont être directement concernées, les générations que vous venez de citer, mais il y a évidemment tous les plus jeunes aussi qui se disent au fond, parce que, en fait, personne ne croit que cette réforme sera la dernière. Vous voyez, si tout le monde se disait, bah, c'est la dernière fois qu'on repoussera l'âge légal, à la limite, ça passerait. Mais ce n'est pas ce que se disent les gens. Et quand on les interroge dans les sondages, ils nous disent aux deux tiers, on est persuadé qu'on va encore reculer l'âge de départ à la retraite. Donc les plus jeunes se disent au fond, eh bien, on va non seulement on va devoir travailler plus tard, mais en plus, on ne croit pas que cette réforme, elle permettra d'équilibrer le système. Les gens ne croient pas en l'efficacité économique de cette réforme. Et donc, ils ne sont pas en train de se dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Personne ne nie le problème, mais ils considèrent que le problème va rester là. Il existera encore. Donc, ça explique pourquoi tous les actifs refusent cette réforme. Une très grande majorité d'actifs, on va dire à peu près un peu plus de 6 actifs sur 10 refusent cette réforme, et que les seuls qui aujourd'hui sont favorables à cette réforme dans la population, eh bien, ce sont les retraités.
Janine Mossieu-Lavaux.
Oui,
et puis, ce clivage des, effectivement, les retraités qui, bon, voilà, ne s'opposent pas.
D'abord, les retraités, je veux dire qu'il y a une forte proportion qui est favorable à la droite. Donc, là aussi, je dirais que, disons, les responsables, ils vont parfois avec des pincettes parce qu'il ne faut quand même pas braquer.
Normalement, on ne touche pas aux retraités parce que c'est ceux qui votent.
C'est eux qui font la décision en votant. Mmh. Donc, il ne faut pas non plus les embêter.
Avec la réforme des retraites.
Mais ce que je trouve assez étonnant là depuis tout à l'heure, puisque c'est en sortant de la réunion entre les chefs de parti et Macron quand même s'y sortait, c'était Macron a bougé sur l'âge, mais il n'y a rien sur le nombre de trimestres de cotisation qui vont aller d'année en année, c'est prévu ça, augmenter. On en rajoute tous les ans. Et ça, c'est plus embêtant pour un certain nombre de personnes parce que il y a des interruptions de carrière, il y a entrée tard, il y a etc., etc. Donc, ça conditionne aussi et ça module tout ce qui peut tourner autour de cet âge. Et c'est pour ça aussi que on se dit, finalement, il a bougé, mais pas tant que ça.
Alors justement, on va aller au standard avec la question de Frédéric, qui est à Pau. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir à tous. Je crois que ce qui vient d'être dit est très important, c'est-à-dire le débat sur les retraites a été escamoté. Je pense que M. Macron en est le principal responsable parce que sur ce sujet, comme sur d'autres, il ne se comporte pas, me semble-t-il, comme l'arbitre que les institutions prévoit qu'il soit, mais comme une sorte de chef de clan. Alors le problème des retraites ne sera pas résolu par l'éventuel prochain gouvernement. Il nécessitera une remise à plat de grandes discussions. Mais ce que je voudrais dire, c'est que justement, on est pendu, à la parole du chef de l'État, en sachant il a bougé, il a dit, alors qu'il a des pouvoirs visiblement excessifs et qu'il en abuse. Actuellement, il en abuse, il est responsable du blocage actuel, et je me demande s'il ne serait pas bon d'envisager à plus long terme de modifier, ses pouvoirs, c'est-à-dire de changer de constitution, et d'instituer dès aujourd'hui, à présent, de mettre en place une assemblée constituante qui pourrait peut-être nous donner un petit peu d'air et commencer à faire entamer une discussion plus large sur ce que nous voulons, pour les années à venir.
Janine Mossieu-Lavaux, ce qu'on entend dans ce que nous dit Frédéric, c'est qu'à travers ce totem, la réforme des retraites, c'est toute l'institution présidentielle qu'on remet en question aujourd'hui.
Oui.
Et qui est fragilisée.
Et on la remet en question parce que, qu'est-ce qu'on a vu finalement, ces dernières semaines, on a vu d'abord que on n'arrivait pas à avoir un gouvernement. Et il se trouve que je fais une nouvelle enquête sur les Français et la politique. Quand je dis nouvelle, c'est parce que c'est une enquête par entretien que je fais en gros tous les 10 ans pour voir les évolutions. Mmh. Et ce que j'ai vu, c'est quand même que donc devant cette espèce de vide quoi qu'on a eu, tout le monde s'en foutait. C'était ça. Tout le monde s'en fout. Et puis il y a eu le moment le cornu. Alors rien pendant des semaines, donc tout le monde s'en fout. Mais le moment le cœur nu, je démissionne, etc. Je suis renommé le lendemain, etc. Et là, moi, ce que j'ai vu, c'est tout le monde rigolait, la rigolait. Et donc, c'est pas, disons, dans ce schéma-là qu'on peut vraiment imposer des choses et faire avancer des choses comme le font les responsables. Et je dirais qu'aujourd'hui, là, ce que enfin, j'ai vu là, c'est vraiment tout récent, c'est, après, je dirais, on s'en fout et après on rigole, c'est, ils nous fatiguent. C'est la fatigue. Les Français sont fatigués de tout ça. Et c'est vrai que moi, quand j'écrivais le début de ce que j'avais dans cette enquête, j'ai appelé ça « grosse fatigue politique ». Et je ne croyais pas si bien dire et être... bon, j'espérais aussi me tromper, parce qu'après tout, ce n'est pas agréable de dire « bon, les Français sont fatigués, ils n'en peuvent plus, c'est que ça va mal et que, bon, ben, on est malheureux pour eux aussi et pour nous, parce qu'on est tous quand même dans le même bateau ». Mais là... Vraiment, il y a ce sentiment, fatigue, on n'en peut plus de ces dirigeants. Et ce que disait beaucoup, c'est on n'en peut plus de Macron.
Céline Braque.
Oui, alors c'est sûr que tout se cristallise autour d'Emmanuel Macron, mais parce qu'il l'a bien voulu.
Oui.
Dans un sondage qu'on a réalisé en début de semaine, juste après la démission de Sébastien Lecornu, quand on disait aux Français... Comment sortir de cette crise si l'on évoque les trois grandes possibilités que sont la nomination d'un nouveau Premier ministre, de nouvelles législatives ou la démission d'Emmanuel Macron? Nommer un nouveau Premier ministre, 20% nous disent ça, 26% pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand on le teste tout seul, la dissolution, ça plaît, si vous voulez. Mais ce qui plaît surtout, s'il y a trois choix, c'est la démission d'Emmanuel Macron à 53%. Ouais. Non pas que les Français, au départ, soit anti-président de la République, c'est pas ça du tout. Mais c'est comme depuis un an en particulier, mais ils ressentent quand même depuis assez longtemps, ils ont le sentiment qu'on ne respecte pas le choix des urnes, et qu'on a un président qui ne respecte pas qui ne respecte pas derrière cela le choix des Français. Pour eux, il y a vraiment une saturation, c'est exactement ça, une lassitude et une inquiétude, puisque les mots qui ressortent beaucoup, c'est quand même une inquiétude, c'est-à-dire que comment notre système va-t-il résister? Le rêve des Français, en réalité, ce serait du consensus. On les dit très divisés, mais ce dont ils rêveraient, c'est une Assemblée nationale où on arrive à trouver des majorités de projets. Et quand les Français, juste avant les législatives, nous disaient on aimerait une majorité, à la limite une majorité pour le président, mais qui soit relatif, c'était en se disant, parce qu'au fond, ça permettra des discussions entre députés. Bon, autant dire qu'ils ont été extrêmement déçus de ce point de vue-là.
France Inter, il est 19h44. Nous n'avons toujours pas de Premier ministre, mais le téléphone continue de sonner au 01 45 24 7000.
France Inter, le téléphone sonne.
Et l'on va au standard rejoindre Farid. Bonsoir Farid.
Oui, bonsoir, je suis Farid, j'habite en Moselle et je suis chef d'entreprise. Et donc j'écoute votre débat ce soir sur la question des retraites. Et je me pose la question suivante, est-ce qu'aujourd'hui, vu l'état des finances de l'État français et de la dette abyssale qu'on a, est-ce que c'est vraiment le sujet de la retraite qui est le plus important, ou est-ce que c'est les comptes de l'État et de voir tout ce cirque des hommes politiques qui, quel que soit le bord, quel que soit le parti, qui n'arrivent pas à se mettre autour d'une table pour régler le problème de la dette? Parce qu'on essaye de nous enfumer avec le sujet maintenant des retraites, en nous disant que c'est la faute des Français et des retraites, mais est-ce qu'on ne devrait pas regarder d'autres sujets très importants pour éviter la banqueroute demain ?
Mathis Talbot, est-ce qu'on nous enfume avec ce sujet des retraites ?
On dramatise sur la question de la dette, en tout cas. C'est ça que je voulais dire, parce que bon, on nous bassine un petit peu avec la dette. Moi, je veux rappeler que la charge des intérêts de la dette, aujourd'hui, c'est à peu près 2%. C'était 3% dans les années 90, donc on n'est pas du tout dans une situation exceptionnelle. À chaque fois qu'il y a une émission de la dette française, les émissions de la dette, elles partent très très vite, donc la dette française, elle reste très attractive. Mais moi, surtout, je veux rappeler que la dette, elle est dans l'état actuel parce que, un, on a versé des aides massives aux entreprises pendant la crise de 2008. Deux, on en a rajouter une couche au moment de la crise du Covid. Et surtout, on a fait le choix de baisser très fortement les recettes de l'État français en multipliant les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises, je dis bien grandes entreprises parce qu'en fait ce sont elles qui sont les principales bénéficiaires de toutes ces mesures, et ça, ça a quand même conduit, il y a un certain nombre de chiffres qui sont balancés dans le débat public de manière insistante, il y en a d'autres qu'on entend moins, le nombre de milliardaires en France, il a doublé en 10 ans, et le patrimoine des 500 plus grandes fortunes, il a doublé depuis l'élection d'Emmanuel Macron, donc il y a effectivement des soucis de répartition de la richesse dans ce pays, mais la question, c'est pas de notre point de vue les retraites, c'est qu'il y a une petite minorité qui a très fortement bénéficié de la politique menée par Emmanuel Macron depuis son élection. Et ça, ça s'est aussi fait au détriment, il faut le dire, d'une autre catégorie de la population qui sont les plus fragiles. Moi, je vais rappeler ici qu'actuellement, le taux de pauvreté en France, il n'a jamais été aussi haut depuis 30 ans, il est de 15%, et qu'il y a 10 millions de personnes dans ce pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc effectivement, il y a des problèmes de répartition des richesses. Ça peut être un point d'accord principal très très général avec, avec la personne qui vient de s'exprimer.
Céline Brac, le problème, c'est la dette ou c'est les retraites ?
Mais c'est pas comme si c'était complètement déconnecté, non ?
Tout à fait.
C'est-à-dire, non, mais le problème, c'est justement que les politiques actuellement n'arrivent pas à s'entendre sur les sujets sur lesquels ils pourraient discuter pour réduire le déficit et notre dette. Mmh. C'est précisément ça le problème. Et à droite et chez Renaissance, jusqu'ici, puisque ça commence à évoluer, on dit que vraiment les retraites, c'est vraiment le sujet sur lequel il faut absolument pouvoir se décider et avancer, et pouvoir très très vite aussi donner des gages, parce que le temps presse pour faire adopter le budget, puisque là vraiment on a même dépassé normalement les délais constitutionnels. Donc voilà, ça,
il faut qu'on présente un budget lundi matin.
Voilà, exactement. Ouais. Donc c'est
au Parlement.
Voilà, et donc du point de vue d'une bonne partie de la classe politique, on peut pas en fait se dire qu'on met ce sujet de côté parce que c'est dans le sujet déficit public, donc c'est nécessaire. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a des partis politiques qui veulent trouver d'autres solutions. Donc c'est vrai que le problème, c'est que là ce soir, on a un fossé énorme entre les partis politiques pour s'entendre sur la solution pour réduire notre déficit et notre dette.
Jeannine Mossulavo, ils peuvent s'entendre, ces partis politiques, ou alors ils sont irresponsables? On sait qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, lors de cette réunion avec tous les chefs de parti, il a appelé à un moment de responsabilité collective.
Oui, mais responsabilité collective, il appelait à la responsabilité collective, par rapport à cette question, je dirais, des retraites, puisque c'était ça qui... Bon,
Le nœud gordien de l'histoire.
Voilà, absolument. Or, je pense que c'est pas, et bon, on l'a déjà dit, mais c'est pas le sujet principal pour la plupart des Français. Pour la majorité des Français, je veux dire, ce qui est, bon, je le disais tout à l'heure, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est le constat que, effectivement, il y a des riches qui sont très riches, et puis. Des pauvres qui sont très pauvres, mais aussi au milieu, une classe moyenne qui a aussi de plus en plus de difficultés parce que y a une inflation et les salaires ne suivent pas. Donc, ça devient un peu difficile quand on ne peut pas, acheter comme on veut des baskets pour ses enfants ou d'autres choses dont on a absolument besoin. Donc, je crois que c'est la faille, les inégalités sociales qui à l'heure actuelle sont vraiment le problème majeur, et que même si les partis ou tel s'emparent du sujet des retraites, et c'est ce que finalement fait notre président, il s'empare du sujet des retraites pour que, on va mettre une espèce de couvercle sur le fait que le problème de fond et qui fait que la société va mal et qu'il peut se passer des choses finalement assez grave, un jour ou l'autre, c'est le niveau de vie des uns et le niveau de vie des autres qui sont aux antipodes, ou en tout cas tellement éloignés, même si les riches ne vivent pas tous sur un yacht et les pauvres ne sont pas tous, au Secours populaire, n'empêche qu'il y a une faille terrible, et que pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Pour le moment, rien, puisque on nous met effectivement cette dette qu'il faut absolument réduire, parce que sinon c'est épouvantable, mais c'est quand même la question des inégalités sociales qui est, à mon avis, primordiale si on veut comprendre ce qui se passe dans la population et pourquoi un mécontentement peut déboucher, je pense, un jour ou l'autre, dans la rue. Hein. C'est quand même peut-être ce qu'il faut que notre président se mette dans la tête.
Alors justement, on n'est pas dans la tête d'Emmanuel Macron, oui, mais vous pensez qu'il peut lâcher sur cette réforme des retraites ?
Non, je ne pense pas qu'il va lâcher, parce que... moi, là, je donne mon sentiment personnel, si vous voulez. Je ne pense pas qu'il va lâcher parce que, c'est vrai qu'il y a des tas d'endroits, on l'appelle le gamin de l'Élysée. Voilà. Et bien, le gamin de l'Élysée, ce n'est pas un homme d'État et il veut, il s'obstine dans quelque chose. Bon. Or, je crois que, et là, je reviens peut-être à quelque chose de plus, solide, je crois que. La façon dont il a mené l'affaire, et elle n'est pas finie et il va continuer à la mener, je crois que là, il a grillé deux choses. Il a grillé ce qui était un peu dans l'air autour de lui, et en tout cas ce que lui disait, pensait dans sa tête, qui était se représenter après qu'il y ait eu un prochain mandat.
Une petite carence après, entre deux présidences. Ouais.
Donc, disons, solliciter un troisième mandat, mais après, puisque c'est possible, c'est pas possible maintenant, mais après. Bon, ça, je pense que c'est grillé, mais en même temps, il a grillé, je pense, sa situation à l'international, puisqu'il semblait qu'il aurait voulu, après 2027, la direction d'une grande instance internationale, de prestige, importante et tout. Et quand on voit les commentaires qui sont faits en Allemagne, en Angleterre, en Italie, sur ce qui se passe en ce moment en France et sur... les jugements portés sur l'action de président de la République, je crois que la carrière internationale, elle en a pris un coup. Voilà.
On va retourner tout de suite au standard. Vous êtes nombreux et merci de nous appeler ce soir au 01 45 24 7000. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir. Je m'appelle Sébastien et je vous appelle de Nantes. Et merci d'abord pour la qualité de vos émissions et de toutes celles du service public. C'est très très précieux.
Merci à vous.
Je vous appelle parce qu'on aborde toujours le problème du financement des retraites par le prisme des dépenses. On entend toujours que c'est un problème de dépenses et de coûts. Et selon moi, c'est plutôt un problème de recettes parce que c'est lié aux cotisations. Et qui dit cotisation dit finalement problème de démographie. Je pense que les retraites, c'est d'abord un problème de démographie. Et est-ce que dans cette optique-là, l'immigration ne serait pas une solution ? Contrairement à tout ce qu'on entend à longueur de journée, à mon avis, l'immigration serait la solution au problème des retraites.
On va poser la question tout de suite à Baptiste Talbot de la CGT. Ce serait l'immigration la solution ?
Écoutez,
pour davantage de cotisations.
Certain, c'est que dans les solutions pour financer nos retraites, il y a la question des recettes. Je vais répondre à la question. Je veux par exemple souligner que si on respectait la loi et qu'on faisait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on aurait 6 milliards d'euros supplémentaires pour financer nos retraites. Donc ça serait une bonne chose. Et il est toujours temps d'y procéder. Sur la question de l'immigration, bon, vous connaissez les positions de la CGT. Donc nous, évidemment, on est totalement opposé à tous les discours de division des travailleuses et des travailleurs en fonction de leur origine. Il y a de nombreuses travailleuses et travailleurs qui sont venus en France, qui ont largement contribué à son édification, notamment à l'époque des Trente Glorieuses. Nous, on pense que quand les travailleuses et travailleurs sont accueillis dans de bonnes conditions, il n'y a aucune raison que les choses puissent mal se passer dans ce pays. On rappelle aussi d'ailleurs que l'immigration, elle est bénéfique en fait en termes de recettes en particulier, et donc elle peut effectivement apporter beaucoup au pays. Donc nous, on pense que c'est une question effectivement à laquelle il faut réfléchir, que c'est surtout pas en opposant les habitants de ce pays entre eux qu'on résolvera les problèmes du pays, et que c'est évidemment pas en stigmatisant en particulier les travailleurs immigrés et leurs familles qui vivent aujourd'hui en France, y compris celles et ceux qui sont sans papier, que on permettra de résoudre les problèmes de ce pays.
Céline Braque, on entendait qu'il y a cette réforme, elle touche les femmes en premier lieu. Est-ce qu'il y a un clivage entre hommes et femmes à propos de...
Non, c'est-à-dire que là, pour le coup, le clivage qui existe, c'est le clivage que je vous disais tout à l'heure entre les actifs et les retraités, retraités étant les seuls, en tout cas en classe d'âge, voilà, à vouloir cette réforme. Les hommes et les femmes sont sur la même longueur d'onde et disent... de concert que c'est une réforme qu'ils jugent injuste pour les femmes. Donc injuste socialement, mais aussi injuste pour les femmes, c'est un des reproches qui est fait à cette réforme des retraites. Si bien que c'est vrai que du coup cette histoire de l'âge est devenue vraiment un point de blocage énorme, si bien que alors même que les Français saturent complètement de la fiscalité, considèrent qu'il y a trop d'impôts, etc. Il y a un sondage qu'on avait réalisé pour l'IFRAP qui sur les différentes réformes que les Français pourraient accepter. Il y en a pas mal, en fait, réformes que les Français pourraient accepter. Mais sur le report de l'âge légal, qui a déjà été voté, c'était vraiment le tabou, si bien que quand on leur faisait choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire est-ce que vous seriez prêt à payer beaucoup plus de cotisations ou est-ce que vous préféreriez ça ou partir plus tard à la retraite, les gens nous disaient je préfère largement payer plus de cotisations, payer plus d'impôts. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est devenu un sujet quand même de crispation majeure qui, il est vrai, je pense quand même que malgré tout ce qu'on a dit sur le fait que c'est pas le seul problème, c'est évidemment, il y a plein de problèmes autour du pouvoir d'achat, il y a d'autres problèmes aussi au sein de l'Assemblée nationale qui font que le gouvernement pourrait être censuré, mais ce sujet-là, c'est vraiment quand même un vrai point de blocage.
Jeannine Mossulavo, vous l'avez dit, hein, cette réforme, elle est dramatique pour les femmes.
Et... oui, parce que ce qui est prévu concernant les trimestres, ça veut dire que puisque ça n'est pas été abordé dans cette question aujourd'hui, ça veut dire que tous les ans, on va exiger pour pouvoir avoir une retraite complète de plus en plus de trimestres. Bon. Or, on sait bien que les femmes sont celles qui souvent se sont arrêtées, mais pas forcément longtemps, parce que maintenant, toutes les femmes, ou presque toutes les femmes, travaillent ou cherchent du travail. Elles ne trouvent pas toujours, mais voilà. Et donc, si on rajoute des conditions en nombre de trimestres, qu'elles auront moins de facilité à avoir que les hommes qui ne s'interrompent jamais, parce que quand il y a des enfants, des personnes dépendantes, enfin, quand il y a des soins à apporter, c'est quand même plutôt elles. Donc, voilà.
C'est le seul sujet sur lequel il y aurait un bouger d'après les différents partis politiques.
Merci beaucoup, Céline Brac, cofondatrice, directrice générale de l'Institut d'études Odoxa. Merci également à vous d'être venue en studio, Jeannine Mossulavo, politologue et sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS et au CVPOF. Et merci aussi à Baptiste Talbot, secrétaire confédéral de la CGT en charge de la coordination des luttes. Merci d'avoir été en ligne avec nous.